Cette émission vous est proposée en partenariat avec l'Association européenne de radio, Euranet.
RFI, grand reportage.
Nathalie Amar.
Et nous sommes aujourd'hui en Ukraine, au lendemain du premier tour de la présidentielle. Comme prévu, le président sortant, Viktor Yushchenko, a été sorti. Lui qui avait été le grand vainqueur de la révolution orange de 2004, au cours de laquelle l'opposition avait protesté pendant de longues semaines contre des fraudes massives et contre le pouvoir autoritaire de l'ex-président Kouchma. La campagne de 2010, 5 ans donc après cette révolution orange, n'a guère suscité les passions. Alors pourquoi cette désillusion? C'est ce qu'a voulu comprendre notre correspondant à Kiev, Camille Magnard. Il est allé quelques jours avant le vote à la rencontre des électeurs de la ville de Dniepropetrovsk, la troisième du pays. Elle est à 400 km au sud-est de Kiev. On écoute son reportage.
Entrez, entrez.
Bienvenue chez Natacha, dans le quartier de Krasny Kamin, à Dnipropetrovsk. Nous sommes au cœur d'une cité dortoir, entourée d'usines héritées de l'époque soviétique, mais l'appartement est grand, confortable, 4 pièces rénovées à l'européenne. Natacha travaille dans le centre-ville comme comptable. Elle est très fière de la qualité de vie qu'elle peut offrir à sa mère, Yelena, et à sa fille, Dasha, qui vivent sous son toit.
Mon mari est officier de marine. Il est commandant sur des navires de commerce pour une compagnie allemande. Donc il gagne beaucoup plus qu'un salaire ukrainien. Et grâce à ça, c'est sûr que si l'on compare avec le niveau de vie moyen en Ukraine, on est assez privilégié. L'appartement est grand, on vit à 4, mais chacun a sa chambre. Même le chien a sa chambre. Donc oui, on peut dire qu'on a de bonnes conditions de vie.
Dans la cuisine, Natacha prépare un rapide dîner pour sa mère et sa meilleure amie, Rita, venue lui rendre visite. Au menu, du poisson frit et un bol de borscht, la soupe nationale ukrainienne. Dans un coin de la pièce, la télévision est allumée en sourdine. Sur l'écran passent en boucle les spots de campagne des principaux candidats à l'élection présidentielle. Des visages souriants et des slogans qui parlent de retour à la stabilité, à la croissance. Comme les deux jeunes femmes, Yelena, la grand-mère, a cessé depuis longtemps de les écouter.
Ils nous promettent monts et merveilles, comme ils l'ont toujours fait, que tout ira bien, qu'on aura tout ce qu'on veut. Mais à force de promettre, maintenant, plus personne ne les croit. Et quand il y a une élection comme maintenant, on n'a plus envie de voter ni pour l'un ni pour l'autre. Nous, on se tue au travail et ça ne nous rapporte jamais rien de bon. Moi, par exemple, j'ai travaillé pendant 42 ans et je dois vivre seule avec ma retraite de 50 euros. C'est une honte. Je ne pourrais pas vivre si ma fille ne m'aidait pas. Vous savez, je ne dis pas ça pour la jeunesse d'aujourd'hui, mais pour moi, ça fait longtemps que je ne crois plus au changement.
Je n'aime pas parler de politique avec Natacha parce qu'on n'est pas d'accord. Elle soutient plutôt Yanukovych et moi, Timoshenko. Et on finit toujours par se disputer. Alors on préfère éviter le sujet.
Moi, vous savez, je suis économiste de formation. Et ce qui m'énerve chez Timoshenko, ce sont les décisions économiques complètement populistes qu'elle a prises. Au début, je la soutenais plutôt, mais il y a eu des excès. Ces méthodes, ce n'est que du populisme, des annonces irréalistes juste pour que les gens se disent « en voilà une qui agit ». Et moi, franchement, j'ai arrêté d'y croire depuis longtemps.
Et moi, je n'aime pas Yanukovych pour une simple et bonne raison, à cause de son passé criminel. Pour moi, c'est vraiment rédhibitoire, je n'arrive pas à lui faire confiance. Et Yulia, oui, elle me plaît, j'aime comment elle s'habille, son apparence. Et sur le plan politique, je la trouve très forte, surtout parce que c'est quelqu'un d'imprévisible.
Pour moi, c'est une erreur que font beaucoup de gens de choisir leur candidat pour leur apparence ou parce qu'on aime leurs vêtements.
Je ne suis pas vraiment d'accord avec ça. Chacun s'habille comme bon lui semble. Et d'abord, Timoshenko, elle n'est pas top modèle pour qu'on s'intéresse autant à ses tenues. Ce qu'elle fait, comment elle gouverne, voilà ce qui est important.
Et voilà, vous voyez, on commence à se disputer.
Здесь будешь?
De l'autre côté des immenses usines métallurgiques, dans le centre de Dnipropetrovsk, se trouve le lycée préparatoire où enseigne Andriy, 33 ans, et sa mère, Irina. Un établissement privé, financé par les cotisations des parents d'élèves. Ici, comme partout en ville, on a ressenti directement les effets de la crise qui a frappé de plein fouet l'économie ukrainienne. Les deux professeurs ont dû accepter une baisse de leur salaire ces derniers mois.
Beaucoup de parents ont dû retirer leurs enfants de notre lycée parce qu'ils travaillaient dans le secteur de la métallurgie et des industries lourdes qui ont été les plus touchées par la crise. Ils ont perdu leur travail et ils ne peuvent plus continuer à payer les cours ici. Forcément, ça s'est ressenti sur le nombre d'élèves et donc sur notre budget et nos salaires. Mais quand même, pas au point de nous lamenter sur notre sort. On arrive toujours à acheter de quoi manger et vivre correctement.
Irina enseigne l'informatique à temps plein dans ce lycée et avec ses années d'ancienneté, elle peut compter chaque mois sur un salaire de 2000 grivnias, environ 170 euros. Son fils André est professeur d'histoire ukrainienne et comme beaucoup de fonctionnaires, il doit cumuler 3 emplois pour dégager un revenu correct. Et même malgré cela, il vit chez ses parents, faute de pouvoir payer seul un loyer.
Mon principal souhait pour l'avenir sur le plan économique, ce serait de pouvoir être autonome financièrement vis-à-vis de mes parents. Ce que j'attends du futur président, ce sont plutôt des avancées politiques. Et pour moi, la priorité, c'est de s'attaquer à la corruption et lutter non pas seulement contre la corruption en elle-même, qui concerne presque 100% de la population ukrainienne, mais surtout contre le fait que les gens acceptent cette corruption, la pardonnent et qu'elle discrédite complètement l'État. Pour moi, un président doit avant tout être quelqu'un d'honnête pour que les gens puissent avoir confiance en lui, qu'ils sachent que ce président va travailler pour eux et pas pour ses propres intérêts ou ceux de ses proches. Mais vu que la corruption concerne pratiquement tout le monde, pour s'y attaquer, vraiment, je pense qu'il faut faire comme ce qu'a fait Saakashvili en Géorgie. Il a viré 80% de la police. Il n'y a pas d'autre moyen que de remplacer toute une partie de l'État, notamment dans la police et dans la justice. C'est ce genre d'action que j'attends d'un président.
Comment le pouvoir peut-il changer alors qu'il est tenu par des intérêts financiers? Il ne changera pas tant que ses intérêts seront préservés par le système actuel. Ici en Ukraine, les pouvoirs politiques et économiques ne sont pas distincts. Au Parlement et dans tous les organes du pouvoir, nos dirigeants ont des intérêts financiers directs et toutes les décisions qu'ils prennent servent à défendre ces intérêts. C'est pour ça que c'est une bagarre incessante et nous, on regarde ça comme un cirque. Moi, par exemple, je ne crois pas que ni Timoshenko ni Yanukovych peuvent changer quoi que ce soit. C'est bonnet blanc et blanc bonnet. La seule chose qui change, ce sont les groupes d'affaires qui sont derrière eux et qui se disputent le pouvoir. Et pour nous, rien ne change. Si seulement une troisième force pouvait émerger, il y aurait un espoir de changement. Moi, j'ai encore envie d'y croire.
Cette troisième force, en 2004, elle a pris le nom de Révolution Orange et la personnalité de Viktor Yushchenko. C'est en tout cas ce qu'ont voulu croire André et sa mère, comme des millions d'autres Ukrainiens. Les grands espoirs de démocratie et de transparence ne sont plus de mise 5 ans plus tard, mais la Révolution Orange n'aura pas été vaine, selon André.
Les gens ont changé depuis 2004, c'est sûr. Les citoyens ont changé dans leur tête, mais pas les dirigeants, ni le système. Eux, s'ils ont changé, c'est seulement en pire. Mais les gens, eux, ont commencé à croire qu'ils avaient leur mot à dire, et même si depuis il y a eu d'énormes désillusions, cette certitude-là est restée dans les mentalités. Les Ukrainiens ont pris conscience que leurs droits ne sont pas seulement écrits sur le papier, mais qu'ils peuvent essayer de les mettre en pratique. Pour vous dire, je me souviens qu'en 2004, avant les élections présidentielles, le vice-recteur de notre université nous a réunis pour dire que notre mission, c'était de faire en sorte qu'au moins 60% de nos étudiants voteraient pour Yanukovych. Et à l'époque, personne n'a rien dit. Je veux croire qu'aujourd'hui, ça ne se passerait pas comme ça. Moi, en tout cas, je me lèverai et je dirai ce que j'en pense. Mais à l'époque, j'ai rien dit.
Il y a 5 ans, en 2004, la vague orange qui a déferlé et mis en échec le pouvoir sortant était aussi une affirmation identitaire ukrainienne et ukrainophone. Dans le centre de Dnipropetrovsk, au fond d'une cour, en bas d'un escalier, on découvre la boutique Art Verte. Un lieu culturel, une librairie 100% ukrainophone, la seule pour toute la métropole. Ici, nous sommes dans le centre-est du pays, une région industrielle et urbanisée qui a été massivement russifiée à l'époque soviétique. Timofey, dit Tima, a fondé l'association Art Vertep en 2001. Il y a 5 ans, bien sûr, il a été de ceux qui ont importé la révolution orange ici à Dnipropetrovsk, sur la grande place Lénine.
Nous tous qui travaillons ici, on est restés pendant des semaines sur la place il y a 5 ans. On dormait sous les tentes. Malgré le froid, on a organisé des mouvements étudiants, on a été agressé par les militants de Yanukovych, on nous a arraché nos affiches, volé nos journaux, on a été arrêté par la police. C'était une période vraiment intéressante. Et puis, ce qui s'est passé après, en fait, il ne s'est rien passé, c'est bien ça le problème. L'Union soviétique est restée l'Union soviétique et Yushchenko est devenu un nouveau Kouchma. Et croyez-le ou non, aujourd'hui, on en vient à regretter Kouchma. Et pourtant, on s'est battu contre lui en 2002 et 2004. Mais au moins, c'est lui qui a lancé la politique d'ukrainisation.
Avec quelques amis, Tima a aussi fondé un groupe de musique folk ukrainienne qui s'appelle lui aussi Vertep. Ces dernières années, le groupe tourne de plus en plus dans la région de Dnipropetrovsk et les concerts attirent un public large. Tima veut y voir un signe que la rupture est-ouest, russe-ukrainien, est en passe d'être dépassée, en particulier ici, dans le centre de l'Ukraine. Et en ce qui concerne ces élections, Tima ne sait plus à qui se fier. Il est à l'image de toute la génération orange aujourd'hui, orpheline de candidats pour défendre ses idées.
Aujourd'hui, on n'a personne avec qui discuter ou travailler, ni l'un ni l'autre des candidats. Mais tout de même, si c'est Yanukovych qui gagne ces élections, ce seront 2 grands pas en arrière pour le pays. Si c'est Tymoshenko, ce sera un pas en avant, mais dans une direction que personne ne connaît. Pour qui voter, on ne le sait pas. Par contre, on sait contre qui voter, contre Yanukovych. Parce que, franchement, on n'imagine pas reconnaître Yanukovych comme notre président sans rien faire. Ce qu'on fera, je ne peux pas vous le dire, mais ce qui est sûr, c'est que nos amis, les artistes, les intellectuels ukrainiens, ne vont pas accepter comme ça, les bras ballants, le fait qu'un homme ignorant, un repris de justice pro-russe, devienne leur président. Je ne sais pas comment on luttera, mais par contre, personne n'imagine une nouvelle révolution orange. On ne reproduira pas les erreurs du passé.
À bord de la ligne de tramway numéro 3, on traverse le centre-ville pour rejoindre la gare de Dnipropetrovsk. Autour du bâtiment, presque toutes les façades cachent des salles de jeux de hasard en ligne. Leur business très florissant et incontrôlé a été brutalement interdit par Yulia Tymoshenko l'été dernier, mais les casinos ont continué de fonctionner illégalement sous la forme de faux cybercafés. Avec ses néons rouges colorés et ses logos à la faucille et au marteau qui scintillent sur fond noir, le casino clandestin URSS attire l'attention. À l'intérieur, le décor est du même tonneau, des affiches de propagande soviétique et des alignements d'ordinateurs qui vous promettent la fortune. À en croire les gérants, Volodia et Katia, la nostalgie de l'URSS n'est pas seulement un argument marketing.
Vous savez, tout n'allait pas si mal à l'époque soviétique. L'Ukraine doit rester unie comme elle l'était sous l'URSS et surtout elle doit garder ses liens avec la Russie. Moi j'ai une sœur qui vit en Russie, à Rostov, et je ne peux même pas aller la voir parce que ça coûte trop cher.
Et puis avec cette langue ukrainienne-là, et avec Yushchenko qui vient de l'Ukraine de l'Ouest, ça fait que c'est l'Ouest qui dicte sa loi au pays. Avant, on vivait tous pareil, ensemble, les Russes, les Ukrainiens, on comprenait l'ukrainien, mais on parlait tous russe. Et du jour au lendemain, on a décidé qu'on allait tous devoir parler en ukrainien. Et aller dans les écoles et partout, on a commencé à devoir parler ukrainien. Et le résultat de ça, c'est qu'à l'Ouest aujourd'hui, ils ne tolèrent plus les russophones. Ils sont devenus tellement nationalistes. Si je vais à Lvov et que je demande mon chemin en russe, personne ne va me répondre.
Franchement, pour moi, l'Ukraine de l'Ouest, ce n'est pas vraiment l'Ukraine. Si eux ne veulent pas de moi, pourquoi je voudrais d'eux? Et puis, je vous pose la question, qui est-ce qui les nourrit à l'Ouest? Ils ont des industries, du charbon, du métal? Non, ils n'ont rien. Tout ce qu'ils ont, ce sont des chalets en bois et un peu de tourisme. Voilà comment ils vivent. Et chaque année, on leur envoie des dizaines de millions pour qu'ils puissent continuer à écrire de la poésie et à regarder tomber la neige.
En plus, ils travaillent à l'étranger.
C'est vrai, ils partent tous en Tchétchénie, en Pologne, sur les chantiers. Ils n'ont rien chez eux, même pas de quoi vivre, alors non merci.
Le discours a bien peu évolué depuis les contre-manifestations de la Révolution Orange, si ce n'est que le ressentiment et l'incompréhension grandissent entre les plus radicaux des russophones et cette Ukraine qu'ils disent ne pas avoir choisie. Mais au moins, au moment d'aller voter, Volodia, lui, n'aura pas une hésitation.
Moi, si je regarde mes parents, mes enfants, les gens que je connais dans ma rue, je suis sûr qu'ils vont tous voter pour Yanukovych. Et la première raison, c'est qu'on veut qu'il renoue des relations fortes avec la Russie. Et Yanukovych, il pense comme nous, il nous comprend, parce qu'il ne vient pas d'une famille riche, il vient du peuple. Alors bien sûr, comme tout le monde, il a des faiblesses. Mais si on ferme les yeux là-dessus, si on arrête d'écouter ce qu'on dit de lui dans la presse à scandale, moi, je suis persuadé qu'il est assez fort, assez courageux et dynamique. Je crois en lui. Yulia a été 4 ans au pouvoir. Elle a eu la possibilité de faire quelque chose. Mais elle n'a rien fait du tout. Pas un acte, pas une idée. Elle n'est pas sérieuse. Bien sûr, elle est belle, elle s'habille bien. Mais ce n'est pas ce qu'on lui demande.
Dans la ville de Dnipropetrovsk, ils sont nombreux à penser comme Volodia et Katia. Ici, en 2004, Viktor Yanukovych l'avait emporté haut la main. Et ce n'est pas Yulia Tymoshenko qui semble en mesure, cette fois, de lui rafler la majorité. Tymoshenko est pourtant née à Dnipropetrovsk, mais nul n'est prophète en son pays. Et le réflexe identitaire, russophone et pro-russe reste très fort au centre et à l'est de l'Ukraine. Ici, comme partout dans le pays, 5 ans après la Révolution Orange, les grandes valeurs démocratiques de 2004 ne pèsent plus bien lourd face à la lassitude électorale et au fort désir de stabilité avant toute chose. Un scrutin sans passion, 5 ans après la Révolution Orange, un reportage de Camille Magnard, réalisation Marc Minatel.
Camille Magnard, que l'on retrouve à présent en ligne de Kiev. Bonjour.
Bonjour.
Un scrutin sans passion, vous nous le dites. Résultat sans surprise également hier soir, Camille.
Et oui, c'est vrai, le duel entre Viktor Yanukovych et Yulia Tymoshenko aura bien lieu. C'est ce qu'ont confirmé tous les résultats d'hier. C'est ce que sont en train de confirmer les résultats officiels qui sont en train de se terminer à la commission électorale. Donc ça confirme ce que l'on prédisait ici. D'ailleurs, on l'a entendu dans le reportage, hein, tous les Ukrainiens ou la plupart de ceux que nous avons rencontrés étaient plutôt résignés à ce résultat. Alors si on regarde les derniers résultats de la mi-journée, donc Viktor Yanukovych est assez franchement en tête avec 35% des voix et Yulia Tymoshenko, la première ministre, le suit à une distance respectable, un peu moins de 25%. C'est grosso modo ce qu'avaient prévu les instituts de sondage et personne ne semble pour le moment vouloir contester ces résultats. On savait que Viktor Yanukovych allait frapper un grand coup et rassembler largement sa base traditionnelle, comme on a entendu dans ces dernières interventions dans le reportage, celle des Ukrainiens russophones des régions industrielles comme celle de Dnipropetrovsk. Quant à Yulia Tymoshenko, elle a eu une partie plus difficile, elle a un électorat plus diversifié, qui est moins docile, et beaucoup de ceux qui avaient voté pour la Révolution Orange en 2004 ont préféré opter pour des petits candidats dimanche.
Comment ont voté les électeurs de Dnipropetrovsk dont vous nous parlez dans le reportage, Camille ?
Justement, selon les résultats officiels, la région de Dnipropetrovsk s'est fait remarquer en Ukraine parce qu'elle a apporté un soutien très important, non pas à Yulia Tymoshenko ou Viktor Yanukovych, mais à Sergei Tygibko. Tygibko, c'est le troisième homme, l'outsider de cette élection. Et à Dnipropetrovsk, il est arrivé en seconde position devant Yulia Tymoshenko, qui pourtant est native de la région. Alors Sergei Tygibko, c'est un ancien banquier qui a fait fortune justement dans la ville de Dnipropetrovsk. Et cette fortune lui a permis de financer une campagne très volontaire et qui a séduit beaucoup de ceux qui voulaient le changement avant tout. D'ailleurs, plusieurs des personnes qu'on a entendues dans le reportage ont avoué avoir voté pour Tygibko, justement pour cette idée de promouvoir un nouveau visage, quelqu'un qui n'avait pas été discrédité par le pouvoir ces 5 dernières années.
Et ce second tour, Camille, le 7 février, s'annonce très indécis. Hein.
Et en effet, tout va se jouer autour du report des voix de Sergei Tygibko, justement, et des autres petits candidats. Yulia Tymoshenko a déjà commencé à lancer des appels pour rassembler derrière elle toutes les voix des partis démocratiques, comme elle a dit, pour faire barrage à Viktor Yanukovych au second tour. Elle l'a présenté comme le candidat des oligarques et des criminels. Mais le problème, c'est qu'elle-même ne convainc pas beaucoup les indécis. Son caractère trop populiste et autoritaire en inquiète beaucoup. Et quant à Viktor Yanukovych, il va devoir casser une bonne fois pour toutes cette image de candidat marionnette à la solde des oligarques et de Moscou, mais aussi cette image, on l'a entendu, quelqu'un l'a dit dans le reportage, d'anciens prisonniers, d'hommes peu instruits, et pour aller chercher des voix au-delà de ces régions comme celle de Dnipropetrovsk où il a réalisé des très bons scores.
Merci Camille Magnard. Demain, nous serons en Jordanie pour évoquer le sort des réfugiés irakiens. Un grand reportage de Julie Lerat.